avions commencé à regarder les différentes modalités de la personne humaine. Dans la lumière métaphysique de sagesse, c'est-à-dire, au fond, en revenant tout le temps à cette question, pourquoi Dieu, dans sa sagesse, a fait cela? Pourquoi Dieu, dans sa sagesse, a créé les anges solitaires? Ce sont des grands solitaires, les anges. Des grands contemplatifs solitaires. Et comment il a fait l'homme et la femme dans une communauté? Pouvoir acquérir une solitude plus parfaite. Bon. En vision de sagesse, nous nous posons toujours la question à partir de Dieu. Il y a une très grosse différence avec le psychologue. On dira, la question de l'homme et de la femme, c'est une question psychologique. Non. Ce n'est pas premièrement une question psychologique. C'est une question psychologique, c'est évident. Mais ce sont les conséquences. Il faut d'abord regarder l'intention de Dieu. Une sainte Thérèse, une petite Thérèse, vous avez un Martin de Porrès et vous avez un Thomas d'Aquin. Il y a une gamme très extraordinaire, et sûrement que qu'on soit catholique, chrétien ou pas chrétien, la sainteté elle n'est pas en Grèce, c'est l'héroïsme. À être une personne typique. Non, elles ont cherché, au contraire, à être toutes relatives à Dieu. Toutes relatives à Dieu dans un service. Une contemplation. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire? Premièrement, on doit y voir que la nature de l'homme et de la femme sont complémentaires, c'est-à-dire nature est conçue par Dieu pour que elle puisse réaliser le mystère de la fécondité. C'est quand même cet aspect-là qui fait la très grosse différence entre les anges et les hommes. Alors évidemment, le philosophe ne peut pas parler des anges parce qu'il n'a pas beaucoup d'expérience des anges, mais il peut en parler en regardant les différentes religions. Dans la religion catholique, on a regardé des anges. Les anges sont une catégorie des créatures très spéciales. Il semblerait qu'après la création des anges, et comme un grand repos de Dieu, c'est suffisant. On ne voit pas pourquoi la création de l'homme et de la femme. Alors, pour soulever et pour répondre à ce pourquoi, il faut tout de suite voir Dieu veut communiquer aux hommes le pouvoir d'engendrer, le pouvoir de se multiplier. Multipliez-vous. Ce qui n'existe pas chez les anges. Les anges sont des personnes parfaites. Tandis que l'homme et la femme sont, avant d'être personne, nature. Vous n'avez pas besoin de beaucoup réfléchir sur la nature des anges et leur personne. Quelle différence y a-t-il entre la nature angélique et la personne de l'ange? Tandis que l'homme, c'est net. Il va naître comme le fruit de la nature. L'homme est responsable de la nature humaine et du prolongement de la nature humaine. Il est responsable que la nature humaine se développe. En une personne. Donc, le problème de la nature et de la personne est quelque chose de capital. Parce qu'on y fait comprendre pourquoi Dieu a voulu ce type particulier de créature qui est l'homme. Au point de vue nature, il est parfait. Au point de vue nature, est parfait celui qui peut engendrer. La nature humaine peut être source d'autres natures. Et ça, c'est la perfection de la nature humaine. C'est très important de comprendre le point de vue de la fécondité, que le point de vue de la génération c'est l'acte parfait de la nature. La nature n'est parfaite comme nature que dans son pouvoir d'engendrer. Alors, le point de vue de la perfection est enraciné comme un développement nécessaire. C'est cela qui fait comprendre le pourquoi de la différence de l'homme et de la femme au point de vue nature. Ils sont faits l'un et l'autre pour former une nature parfaite. La nature de l'homme, la nature la femme, vue séparément, demeure imparfaite, des natures imparfaites. Elles ne sont natures parfaites que dans l'engendre, que dans la génération. C'est très important de comprendre cela. Parce que c'est quelque chose d'enraciné dans la nature. Une nature demande d'être parfaite. Tout en elle appelle d'être parfait. Le parfait, c'est celui qui est capable d'engendrer, au point de vue naturel. C'est dans la génération que la nature atteint son sommet de nature. Mais il y a ceci de tout à fait spécial, c'est que l'homme est une nature. Mais il est aussi une personne. Et que il doit, dans sa personne, assumer sa nature de telle ou telle manière. Il y a dans l'homme cette dualité foncière, pas seulement l'âme et le corps, mais l'âme et le corps correspond à cette dualité que l'homme est finalisé en tant que nature par la génération. Et que en tant que personne, il dépasse le point de vue de la génération. Il n'est pas dépendant pour la perfection de sa perfection, de son humanité. Il n'est pas dépendant de la fin de sa nature. Tout homme, toute femme ont un problème fondamental, plus ou moins conscient, J'ai des quantités, il est inconscient. J'ai quelques-uns, il est très conscient. Savoir s'il faut opter pour la perfection de la personne ou la perfection de la nature. Ou la perfection des deux. Donc il y a trois solutions. Et les trois solutions demeurent. C'est la complexité de l'homme, c'est la complexité de la femme, comparativement à l'ange. L'ange est une nature spirituelle relativement simple comparativement à l'homme. Tandis que l'homme demeure toujours dans cette espèce d'inquiétude nature-personne, sans l'expliciter. C'est le rôle du philosophe de l'expliciter. En tant que nature, c'est l'âme informant le corps. En tant que personne, c'est l'âme spirituelle se développant pour elle-même et par elle-même. Par le fait même, il y a en lui une dualité qui demeure dans le développement même de son intelligence et de sa volonté. Dans son intelligence, c'est un développement rationnel ou un développement intellectuel. Et ceci, c'est sa constitution même. Il implique cette dualité. Vouloir la supprimer, c'est vouloir faire comme les anges, frère aîné, ou faire comme les bêtes. Le propre de l'homme et la femme, c'est d'avoir une dualité de vie, même au point de vue de l'intelligence et au point de vue du cœur. On porte en soi cette dualité, la dualité de l'âme et du corps. La refuser, comme actuellement ça se fait, la refuser, c'est oublier ce qu'il y a de caractéristique dans l'homme et la femme. C'est donc ne plus vouloir accepter cette réalité foncière. Que nous ne sommes pas simples, que la vie en nous se développe de façon multiple. C'est très, très important, ça, parce qu'il y a une nostalgie actuellement de ne voir que la personne. Comme il y avait avant une nostalgie de voir que la nature. La très grande difficulté, c'est de voir que notre nature ne peut atteindre sa perfection qu'en reconnaissant qu'il y a quelque chose au-delà de la nature, qui est la personne. L'origine de cette dualité, est une. Nous naissons dans notre nature humaine et nous naissons dans notre esprit. Et que, au début, dans l'imperfection de la nature et l'imperfection de la personne, les deux sont liés. Le petit enfant, vous n'allez pas divier le point de vue de la nature et le point de vue de la personne. Ce serait une projection sur lui de ce que vous êtes, mais il n'est pas ça. C'est très important, ça. Vous voyez, le point de vue psychologique, à quel niveau va s'épanouir? Il s'épanouit dans le développement de l'esprit et du corps. Mais il n'implique pas la distinction de l'âme et du corps. On veut tout de suite une séparation, alors que la séparation est contraire à l'intention profonde de Dieu. L'intention profonde de Dieu, c'est que nous avons une nature. Et que cette nature nous est confiée. Et que nous devons développer cette nature d'une façon personnelle. C'est au fond ce qui est confié à chacun d'entre nous. Nous en prenons plus ou moins conscience, mais c'est confié à chacun d'entre nous. Le développement de notre nature qui doit se faire d'une manière personnelle. Le développement de notre nature ne peut pas se faire naturellement. Doit se faire volontairement. C'est là ce qui est confié à l'homme et à la femme, prendre conscience qu'ils ont une nature qui leur a été donnée, que cette nature doit la transformer en une personne. Bon, je crois que cela, c'est le fondement et qu'il faut absolument toujours garder. C'est le réalisme même de la personne qui est dans la nature. Finalité, elle est dans la personne. La nature s'impose à moi pour des choses nécessaires. Tout ce qui est naturel en moi et qui se développe en moi est nécessaire et s'impose à moi. Je dois l'accepter. Je dois le reconnaître. et ce qui s'impose à moi comme nature, je peux le développer. Et je le développe d'une façon personnelle. Plus ou moins bien, mais je le développe d'une façon personnelle. Donc, la complexité de l'homme et de la femme doit être reconnue dès le point de départ. C'est très très important, je crois, cela. Parce que si on nie la personne, si on nie la nature, on ne peut plus avoir un développement authentique de la personne. Et si on nie la personne, on ne peut plus comprendre ce qu'est l'homme et la femme. Lorsqu'il s'agit de l'homme et de la femme, l'homme et la femme sont semblables au point de vue nature. Non seulement ils sont semblables, mais ils sont relatifs l'un à l'autre. Il y a une complémentarité qui fait que la nature, instinctivement, la nature homme et la nature femme, instinctivement, se complètent. Comme deux parties de la nature, l'une et l'autre imparfaites. Au point de vue nature humaine, l'homme seul n'est pas parfait. Au point de vue nature humaine, la femme seule n'est pas parfaite. Il y a une complémentarité naturel, fondamental, entre l'homme et la femme. Je crois que ça aussi, c'est très important. On ne peut pas le refuser, autrement dit. Si vous le refusez, vous ne voyez plus ce que c'est que la nature humaine. Si la femme ne veut pas regarder la nature humaine réalisée dans l'homme, elle ne peut plus comprendre ce que c'est que la nature humaine. Et si l'homme ne veut pas regarder le complément de la femme, il ne sait plus ce que c'est que la nature humaine. Donc, elles sont complémentaires. Je parle au plan philosophique, hein. Elles sont complémentaires. Parce que c'est l'union de l'homme et de la femme qui permet la réalisation d'une nature parfaite. Donc, la nature humaine, vue uniquement dans l'homme, n'est pas parfaite. La nature humaine, vue uniquement dans la femme, n'est pas parfaite, comme nature. Fait qu'il y a un appel naturel à une complémentarité. On va voir quelle différence il y a entre les deux dans le développement. Et c'est la personne humaine qui reconnaît cela. Et reconnaissant cela, elle va se demander Comment cette complémentarité peut jouer ? Cette complémentarité joue au niveau nature, cette complémentarité joue au niveau recherche de la finalité, de la fin, de la personne. Cela aussi, je crois, essentiel. C'est complexe, ce n'est pas simple du tout. Et quand j'étudie, au point de vue philosophique, ce que c'est que l'homme, ce que c'est que la nature humaine, je dois regarder la nature humaine réalisée dans l'homme, réalisée dans la femme. Parce que la réalisation dans l'homme est autre que la réalisation dans la femme. Et ces deux réalisations sont complémentaires, c'est-à-dire relatives l'une à l'autre, sont naturelles et complémentaires. Donc, puisqu'elles sont naturelles et complémentaires, je ne peux pas les nier. Si je les nie, je détruis la nature. Une complémentarité par le point de vue de la finalité. Y a-t-il une autre complémentarité ou y a-t-il que la complémentarité de la finalité ? C'est ça qui est intéressant. La complémentarité au point de vue finalité, c'est premièrement le point de vue de la procréation. La procréation est fin naturelle de l'homme, du vivant, fin naturelle. Et la contemplation, l'amitié est une fin choisie. Et la contemplation est une fin choisie. Je crois que je puis affirmer cela en me servant de l'éthique. Il y a une finalité naturelle qui s'impose, c'est la procréation. Il y a une finalité qui implique un choix, l'amitié. Il y a une finalité qui implique un choix, la contemplation. On est donc en face de trois finalités. Une naturelle et deux qui sont choisies. La complémentarité de la femme par rapport à l'homme, de l'homme par rapport à la femme, va donc jouer sur ces trois points. C'est essentiel. Et va jouer de façon différente sur ces trois points. Le premier point, complémentarité au point de vue procréation. liberté s'impose quant à la diversité de la nature, homme, femme. La vie humaine est partagée entre l'homme et la femme. On discutera un peu indéfiniment pour savoir où il y a supériorité ou infériorité. Je crois que c'est un faux problème. Parce que c'est une complémentarité naturelle. Donc nécessaire pour la finalité de la procréation. Je sais très bien qu'actuellement, c'est ça que l'humanité scientifique, je distingue bien, l'humanité scientifique désire à tout prix détruire. C'est le plaisir de détruire. C'est le plaisir humain de montrer que ce qui nous semble être le plus naturel, c'est-à-dire le plus fondamental, le moins choisi. Je n'ai pas choisi d'être un homme, je n'ai pas choisi d'être une femme. Ça s'impose. Puisque je ne l'ai pas choisi, ce n'est pas humain. Dans la perspective moderne, on ne va pas l'oublier, est humain tout ce qui est choisi. Pour beaucoup, est humain ce qui est choisi. Ça s'impose à moi. Ça s'impose à moi par rapport à la procréation. Donc, essayons de voir si la procréation ne peut pas se faire d'une autre manière pour enlever cette complémentarité naturelle. Et ça va très loin, cette recherche actuelle. C'est pour essayer de supprimer cette complémentarité de vie pour la perfection de la vie. L'homme parfait, la femme parfaite engendre. Si on voit une autre modalité de fécondité, par le fait même, on pourra dire que la nature humaine est parfaite chez la femme, ou parfaite chez l'homme. L'enjeu est métaphysique, hein, sans le savoir. Mais ça bouleverse tout. Parce qu'il y a quelque chose de naturel qui, jusqu'ici, était respecté. Et on ne cherchait pas autre chose. Sous une influence de la science, on cherche s'il n'y a pas une perfection autre que celle-là. C'est une vision qui va changer complètement la vision de l'homme et de la femme. On n'y est pas arrivé, hein. Mais on y tend. Alors, est-ce qu'on tend vers un paradis perdu, ou est-ce qu'on y tend vers quelque chose qui est purement une espèce de mythe, ou on est devant une découverte scientifique extrêmement importante et fondamentale. Il faut poser le problème. Il faut poser le problème avec toute la force du problème. Parce que c'est par rapport au concept même de nature. Où la nature est-elle parfaite? Est-ce que la nature peut être parfaite chez la femme? C'est-à-dire, est-ce que, à partir d'elle, il peut y avoir une génération sans l'appel à l'homme? Ce qui ferait que la femme possède la nature humaine parfaite. Et que le lien avec l'homme dans la procréation ne serait que facultatif. Laissé au choix de l'homme. Donc, serait retiré de la nature pour être personnel. Vous voyez ? Ne serait plus naturel, mais deviendrait personnel. Humainement, c'est un problème foncier qui ébranle toute l'espèce humaine dans sa base, dans son fondement. Est-ce que la science pourra arriver à cette découverte qui montrera que ce qui était affirmé dans le passé n'était pas vrai. C'est donc une conception même de la nature humaine avec le point de vue de la personne qui serait changée. Jusqu'ici, nature, homme, femme, nécessaire pour la procréation. Donc, ils sont unis pour la procréation. Ils sont deux dans l'unité, puisque les deux s'unissent dans l'unité. C'est l'enfant de la mère, c'est l'enfant du père. C'est le fruit de la mère, c'est le fruit du père. Donc, il y a le fruit des deux. Et qui exprime le fruit de la perfection des deux. Ils sont parfaits au point de vue naturel quand ils sont à deux. Tandis que si on arrive à ce point de vue de séparer et uniquement par le point de vue féminin, on sera donc obligé de modifier cette première coopération. Pour beaucoup, cette modification, ce serait tout simplement un enrichissement de la personne. Le choix libre de la personne irait jusque-là. Alors que maintenant, le choix libre de la personne ne va pas jusque-là. On est obligé de reconnaître que la nature commande le point de vue de la procréation. On est obligé de reconnaître que la perfection de la nature ne se réalise qu'à deux. Mais ce problème, au plan philosophique, est capital. Je crois qu'il est capital. Je ne parle pas du point de vue théologique. Hein. Alors, est-ce que l'homme, par les progrès de la science, peut-il dominer la nature jusqu'à ce point-là? Alors, il y aurait là un problème extrêmement intéressant au point de vue épistémologique, au point de vue critique. La science, elle est abstraite, puisqu'elle part de l'universel. Et on verrait que l'abstraction est dépassée. Et nous permet de saisir quelque chose que, selon une connaissance vulgaire, non scientifique, on affirme. Alors, on verrait que la connaissance de l'homme et de la femme est tout autre que ce qu'on disait jusque-là. À la racine, il y a un changement. Il y a une modification. C'est l'intérêt de cette recherche. Est-elle légitime, n'est-ce pas légitime, ça c'est autre chose. Ça ce sera un problème moral, éthique, et qui sera différent pour un chrétien ou pour un non-chrétien. Tandis que philosophiquement, il y a un problème philosophique au-delà de l'éthique, puisque c'est le fondement de l'éthique. La nature est le fondement de l'éthique. Jusqu'où va ma connaissance de la nature? C'est ça qui est en cause. Et donc, jusqu'où il y a le point de vue de la complémentarité de la nature et de la personne? Je mets interrogation. Alors, on peut avoir son opinion philosophique en disant, vous cherchez quelque chose qui ne peut pas se réaliser, mais philosophiquement, je ne peux jamais dire ça, parce que je ne connais pas d'une façon exhaustive toutes les richesses de la nature. pas une connaissance exhaustive, il n'y a que Dieu qui l'a. De la nature. Les connaissances de la nature augmentent progressivement. L'homme peut faire des constructions extraordinaires, mais ce sont des constructions. C'est du fatuéré. Tandis que l'homme est-il soumis à la nature? Et jusqu'où va cette soumission à la nature? C'est le problème, ça. Jusqu'où cette soumission? Deuxièmement, coopération de l'homme et de la femme dans l'ordre de l'amitié. Alors là, c'est un ordre choisi. Est-ce que l'amitié homme-femme quelque chose d'irréductible comparativement à l'amitié homme-homme, femme-femme. Oui, grand problème aussi, aujourd'hui. Tous ces problèmes-là sont des problèmes actuels. Si on veut les penser, alors c'est notre rôle de les penser philosophiquement. D'abord, il faut les penser philosophiquement avant de les penser théologiquement. Il ne faut pas oublier, hein. Toujours. Penser théologiquement tout de suite, c'est très bien pour le chrétien qui ne fait pas de théologie, mais pour le théologien, il doit le faire. Alors là, il y a un problème. C'est très intéressant de savoir si l'amitié homme-femme est une amitié qui a quelque chose d'unique, qui ne peut pas se retrouver dans homme-homme, femme-femme. Et ceci, c'est toujours pour essayer de voir quelle est exactement la coopération qui doit exister entre l'homme et la femme. Nous avons eu, d'un point de vue naturel, ce que naturellement nous est donné, que l'humanité a vécu de ça, depuis ses origines jusque maintenant. Et il y a un problème révolutionnaire qui est posé scientifiquement et que, les chiffres seraient intéressants, mais de voir toutes les sommes d'argent qui sont en vue de ça. Parce que derrière tout ça, il y a des idéologies. Mais je ne regarde pas ces idéologies, hein, parce que ce serait déjà plutôt de la théologie. Le philosophe ne s'occupe pas beaucoup des idéologies, de droite et de gauche. Il voit les erreurs. Et puis une fois qu'il a vu l'erreur, il s'en occupe plus. Le second problème.